ハジュースクッピハジュースクッピ
ーホノ
ジャック・シャンセル。Renaud, ça va très vite. Vous avez souhaité vous faire un prénom et vous avez abandonné d'une manière définitive votre nom.
Oui, un petit peu. Au départ, je ne voulais pas compromettre ma famille dans cette aventure. C'est pour ça que j'ai gardé mon prénom.
Pourquoi ? Parce que votre père était déjà installé peut-être dans un univers qui était un peu trop public ?
Ou il n'était pas très très connu, mais bon, je voulais. J'ai jamais aimé la résonance de ce nom, Séchant, Renaud Séchant. Et quand j'ai commencé à faire du disque, j'envisageais pas de faire une longue carrière, mais j'avais comme référence le chanteur Antoine. Et je trouvais qu'un prénom, ça sonnait bien comme ça.
Vous êtes parent avec Edmond Séchant, le
cinéaste ? C'est mon oncle. Ouais.
Ah, c'est votre oncle ?
C'est le frère de mon père, oui. Ça, c'est la branche.
Remarquable cinéaste.
Ah bon ?
Remarquable. Alors, Renaud, on vous a collé toutes les étiquettes. Souhaitez-vous être considéré comme le Bruant des banlieues ?
Je ne souhaite pas, mais quand on me compare à Bruant, je suis très flatté, effectivement, puisque c'est un des auteurs que j'ai beaucoup lu et qui certainement m'a complètement influencé.
Vous serez sans doute d'accord avec Michel Sardou qui me le disait l'autre jour. Johnny Hallyday a marqué une époque, il appartenait à un public, il disait de lui-même, moi, bon, je suis entre les époques, et Renaud, lui, à son tour, appartient à un public, c'est-à-dire que beaucoup de gens se réfèrent à vous. Vous le sentez ? Vous en avez conscience ?
Oui, je veux dire, c'est en même temps très, très délicat et très...
Ah, une responsabilité.
Très dangereux aussi d'être, pas un porte-parole, mais de se rendre compte qu'on dit avec, que je dis avec mes mots, et mes mots sont les mêmes que ceux de plein de gens, plein de jeunes, les préoccupations de toute une partie de la population, quoi, de la jeunesse essentiellement. Mais...
Parce que vous les écoutez, les mots des autres, ou bien ce sont vos mots qui sont repris parce que c'est un problème de génération ?
Non, j'ai le même langage qu'eux. Je veux dire, je suis à l'affût de tout ce qui se passe dans la rue, dans la vie. Je suis très, très porté sur... Enfin, je veux dire, je lis beaucoup, j'écoute la télévision, la radio, j'ai la presse... toujours à l'affût de tout ce qui se passe dans cette société.
Lorsque j'ai dit on vous a collé toutes les étiquettes, je vous ai vu vraiment approuver de la bouche et des yeux.
Oui, bah oui, parce que bon, l'étiquette qu'on m'a le plus collée, c'est celle de loubar, parce que c'est le nouveau mot pour dire un voyou ou un blouson noir. C'est une question de langage qui évolue, mais et j'ai toujours dit personnellement que l'étiquette, bon, ça m'amusait pas beaucoup d'en porter une, mais que je préférais plutôt que de... Si pour renoncer à l'étiquette, il fallait renoncer au blouson de cuir, je préférais conserver l'étiquette, puisqu'il n'y a que là-dedans que je me sens bien, et que j'en portais un avant de chanter. Quand j'ai commencé à chanter, j'ai pas eu envie de porter un costume, je veux dire. Ou alors celui que j'avais dans la vie, quoi.
Et puis on a donné véritablement un sens qu'il n'a pas au mot loubar aussi souvent.
Ouais, bah c'est un mot qui a été quelque peu galvaudé, comme le mot zone, comme le mot...
Oui, mais vous en avez abusé aussi, peut-être. C'est-à-dire qu'on vous a installé dans cet univers-là, et puis après vous avez joué vous aussi avec les mots.
Mais j'en ai joué aussi, puisque le mot, oui, bien sûr, parce que bon, pour parler d'un jeune mec aujourd'hui qui habite en banlieue, qui traîne la rue, qui est à la limite de la délinquance, la petite ou la moyenne, et qui s'habille un peu comme moi, qui s'habille comme ça, je veux dire, c'est, il n'y a pas d'autre mot que le mot loubar, je veux dire, on a beau chercher... Et parfois pour les facilités de la rime.
Ça a beaucoup de jeunes, c'est
facile de dire loubar qu'un jeune délinquant.
Oui, il vous arrive de parler avec les adultes, enfin les plus grands, disons les plus de 35 ans.
Oui, oui, parfois, oui.
Ils vous écoutent, eux ?
Oui, bah, c'est ce qui me vaut aussi d'ailleurs quelques reproches. C'est que depuis quelque temps, mes chansons plaisent aussi aux moins jeunes et plaisent aussi pas forcément en voyou, je veux dire.
Et il y a peut-être une difficulté chez vous, c'est justement tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que vous êtes d'une génération, cette génération c'est forcément celle de ceux de 20 ans, et vous en avez 28, bientôt 30, d'autre part il y a quand même un grand nombre de chansons, plusieurs albums, et peut-être aussi la nécessité de vous transformer, d'évoluer un tout petit peu, c'est la difficulté d'être Renault pour demain.
Ouais, c'est pas évident, c'est vrai, quand on a une image de bon, c'est pas prophète, c'est pas porte-parole de quoi que ce soit, ni
si on peut dire prophète par rapport aux mots, en tout cas.
Je veux pas l'être, en tout cas. Je veux pas être un leader, ni philosophe, ni politique, ni quoi que ce soit. Moi, j'ai l'impression simplement de faire de la chanson, c'est tout ce que ça comporte. Mais quand les gens attendent de moi que je me révolte toujours, qu'à travers mes chansons, je remette tout en question, c'est... Enfin, en question, ce que eux remettent en question, c'est pas toujours facile, parce que si je le fais pas, je peux être accusé de trahison, si je le fais, je suis accusé de démagogie, tout ça, c'est...
C'est que vous parlez pour eux, et c'est vrai que vous jouez à cache-cache avec la dérision, avec la violence, avec la tendresse, enfin, vous jouez à cache-cache
oui,
avec les mots.
Oui, la violence, j'essaye de la faire passer plus facilement grâce à l'humour, et la détresse... aussi, grâce à la tendresse, je veux dire.
Alors qu'il y a, je dois dire, surtout au fond de votre cœur, une immense tendresse. Alors lorsqu'on voit la violence, parfois on se dit Renaud se force, ou Renaud a
non, je me force
la
pas,
nécessité
je,
de dire.
J'ai la nécessité de l'exprimer, vu que je ne suis pas violent dans ma vie, je ne suis pas ni bâti physiquement pour l'être, je n'ai jamais pratiqué aucun sport de combat, ni quoi que ce soit, et je ne suis pas d'un tempérament violent. Mais j'ai quand même, comme tout le monde, un fond de violence en moi qui doit sortir, qui doit s'exprimer pour être bien, et cette violence, je la sors dans mes chansons. Et de toute façon, la violence que je subis, moi, dans la vie, j'y réponds par mes chansons.
Si vous n'aviez pas été chanteur, vous pensez que vous auriez pu tomber dans la délinquance?
Je crois pas, non.
Non, moi, je n'étais pas armé pour ça.
J'étais pas armé pour ça, non. J'ai, mon éducation, il y avait trop d'amour dans ma famille pour m'amener à ça.
Vous étiez combien dans votre famille?
6 enfants.
Que font les autres? Vous êtes à quelle place dans la hiérarchie?
Je suis l'avant-dernier ex aequo, j'ai un frère jumeau. Et les autres font secrétaire, photographe, des petits métiers comme ça.
Et par rapport aux jumeaux, il y a des signes communs?
Aucun, on est tous les deux pourtant du même signe zodiacal et du même ascendant, et on n'a aucun rapport entre... Enfin d'abord, on se voit quasiment pas.
C'est de la faute de qui?
La faute qu'il a sa petite vie, j'ai la mienne, ma petite vie aussi, puis on s'est jamais beaucoup fréquenté, je veux dire. Même à 14, 15, 16 ans, il avait ses copains, j'avais les miens, il avait ses occupations, j'avais les miennes. Je suis beaucoup plus proche de certains autres membres de ma famille que de mon frère jumeau. C'est peut-être un refus de justement de...
Du jumeau, peut-être.
Du jumeau, peut-être, oui. Mais enfin, on s'entend très bien, mais on se voit très peu.
Vous auriez pu avoir un tout autre métier. D'abord, vous avez fait quelques études quand même.
Oui, j'ai fait les études jusqu'en... Tout de suite après 68, j'ai plus pu. Ça, c'était
fini.
La goutte d'eau,
le blocage.
Qui débordait le vase. Oui, oui.
D'ailleurs, tout a commencé dans les fièvres de mai 68.
Oui, complètement.
Là, vous vous êtes dit, un monde s'ouvre pour moi.
Ça a commencé à dégénérer un petit peu à mon entrée au lycée, parce que je venais d'une école où j'avais été à peu près bon élève. Et à peu près sage, et au lycée, j'ai découvert les copains, les booms, les mobilettes, et surtout un lycée mixte. Donc, les jeunes filles, pour ne pas dire les gonzesses, et j'ai commencé à vraiment plus rien foutre. Mais comme j'avais la chance d'avoir un père qui était professeur dans le lycée où j'étais élève, j'ai comme ça passé allègrement de 6e en 5e, de 5e en 4e, avec toujours des notes qui méritaient une discipline qui méritait le renvoi, ou des notes qui méritaient le redoublement ou le redoublage. Et j'ai été un peu... On était mon frère jumeau et moi-même dans ce lycée, et tous les deux aussi cancres. Et comme mon frère jumeau trinquait, il voulait pas punir les deux fils du professeur. Alors moi, j'ai tenu jusqu'en 3e.
Renaud, votre frère, le professeur, votre père plutôt, le professeur, il a de l'estime aujourd'hui pour ce que vous faites?
Ah oui, beaucoup, oui. Ben lui, il avait été avant d'être professeur, il est surtout écrivain, et il est complètement séduit par le fait que son fils écrive, même si c'est des chansonnettes, c'est quand même de l'écriture pour lui.
Il aurait peut-être voulu faire ce que vous faites?
Oh, chanter, je crois pas, non, mais,
avoir
du succès, oui. Certainement.
Avoir du succès, vous dites?
Oui, il en a eu beaucoup, mais avant-guerre. Après, il a eu 6 enfants, il a fallu... Le succès, ça n'est pas toujours synonyme de richesse et de réussite. Alors, il s'est mis prof.
Il écrit toujours ?
Oui, oui, toujours un petit peu, oui.
Vous semblez regretter, Renaud, que votre père n'ait pas eu le succès que peut-être il méritait ou que sans doute il méritait.
Ben, un petit peu, oui, parce que avant-guerre, il était écrivain, il écrivait des romans contemporains, il a même eu des prix littéraires. Après, il a écrit des romans policiers sous un pseudonyme américain après la guerre. Et puis après, les enfants venant, il a écrit des bouquins pour enfants, des livres pour la jeunesse, et ensuite traducteur, ensuite professeur.
Vous chantez pour qui ? Vous écrivez pour qui ? Bon, il y a une femme, il y a une petite fille qui s'appelle Lolita, il y a oui. Votre père. Vous écrivez peut-être pour quelqu'un, beaucoup plus que pour vous.
J'écris, ouais, quand j'écris une chanson, quand elle me plaît à moi, je la teste auprès de ma femme et auprès de mes amis très proches et mes frangins, ma famille. Et ensuite, quand ce cap est passé, si ça leur plaît à eux, je la jette en pâture au public en me disant ça va. Même si ça leur plaît pas, tant pis. C'est peut-être moi qui ai tort, mais...
La première fois que vous avez chanté, vous étiez très jeune. C'est vrai que vous avez pris goût à la chanson. Vous deviez avoir 14, 15, 16 ans. Mais vous ne pouviez pas prévoir qu'un jour, vous seriez Renaud. De toute manière, on ne peut jamais prévoir.
Non, non, moi, ça je sais qu'à partir de 15, 16 ans, je savais pas bien ce que je voulais faire. De toute façon, je voulais pas faire chanteur, mais je chantais déjà.
Et faire quoi, alors?
Je voulais faire un métier artistique, sur les planches, éventuellement comédien ou clown ou un peu. Mais je faisais rien, en fait. Je faisais... En 68, je faisais gauchiste professionnel, quoi.
Et en le disant. En le disant.
Absolument, oui.
Ce qui est presque un métier, quoi. Ouais, que fait gauchiste?
C'était ma seule ambition, c'était ma seule occupation, c'était les manifs, le militantisme. Mais,
Et aujourd'hui, vous êtes en bourgeoisie. Même si vous chantez encore la violence, la dérision, la haine... La folie.
Matériellement, oui, de toute façon, oui. Mais.
Mais vous le saviez.
Oui, je savais. Mais je l'ai pas voulu, je veux dire. J'ai jamais forcé les gens à acheter mes disques et à les aimer.
On est condamné à aller de cette manière, c'est-à-dire à être à 20 ans révolutionnaire, à droite ou à gauche, hein, et puis un peu plus tard à s'installer parce qu'on trouve une femme, parce qu'il y a un travail, et parce qu'on souhaite un confort.
C'est-à-dire que moi, je milite moins, mais je suis toujours aussi. Sur le coup de tout ce qui se passe, je veux dire, je suis toujours seul qui vive et toujours surtout concerné et motivé par toutes les luttes et tout ce qui se passe dans le monde. Mais je suis plus motivé par ce qui se passe dans ma rue, dans mon monde à moi, dans le monde que je connais et que je fréquente. Je veux dire, je suis plus touché par le problème d'une attaque au bulldozer sur un foyer d'immigrés à Ivry que le problème des boat people. Même si le problème des boat people est plus... une échelle plus importante, plus dramatique.
Et entre les immigrés de Livry et votre famille, vous choisirez votre famille.
Comment ça ?
C'est-à-dire si un jour il fallait faire un choix, il n'y a pas de choix à faire, c'est idiot ce que je dis. Mais quand même, vous êtes plus près de votre famille que de tous les autres.
Oui, bien sûr, oui, ma famille.
Quoi qu'il arrive. Alors, les chanteurs, vous le savez, Renaud, ont des troubadours qui écrivent leur histoire. Alors moi, j'ai lu quelques lignes, là, où on dit que, fuyant les contraintes de son lycée, il chante pour les étudiants, c'est toute la période de mai. Puis, un peu plus loin, divers petits métiers pourvoient ensuite à ses besoins alimentaires, tout en lui permettant de fréquenter l'école de la rue. Mais j'ai l'impression là que vous aviez quitté le milieu familial, parce que quand même...
Après 68, quand j'ai arrêté mes études, mes parents m'ont dit, bon, c'est très bien, de toute façon, t'es nul, t'es cancre, t'es pas nul, mais tu veux rien faire, tu veux que tu t'occupes que de la politique et des flirts, des jeunes filles du lycée, donc si tu arrêtes tes études, c'est très bien, mais si tu veux rester à la maison nourri, logé, il faut travailler. Donc mes parents m'ont pas foutu à la rue du jour où j'ai arrêté mes études, mais ils m'ont dit si tu veux rester chez nous, faut travailler. Donc j'ai commencé à bosser à droite à gauche.
Quels ont été les différents petits métiers là ?
J'ai fait celui qui m'a tenu le plus longtemps, c'est libraire, enfin vendeur en librairie sur le boulevard Saint-Michel, donc en 69, donc toujours dans un quartier chaud. Et j'ai fait ça 2 ans. J'ai rattrapé le temps perdu, tout ce que j'avais pas voulu apprendre à l'école.
Vous avez lu ?
Ouais, un petit peu.
Passionné par les livres ?
Oui, j'aime beaucoup. Oui. J'aime bien les livres. J'ai pas lu beaucoup de choses, mais quand je tombais sur un livre qui me plaisait, j'essayais de lire toute l'œuvre de l'écrivain. C'est comme ça que j'ai lu tout Maupassant, tout Boris Vian, un petit peu Drieu La Rochelle et un petit peu Céline. C'est pas, bon, c'est aussi beaucoup de polars, San Antonio, Chaise, beaucoup de Chaise.
Et Frédéric Dard se reconnaît en vous. Il dit, à 20 ans, je devais être comme lui, ou si j'avais chanté, j'aurais été comme lui, et j'ai écrit San Antonio parce que je suis Renaud, à ma manière.
C'est formidable.
Il l'a dit d'ailleurs, et c'est bien pour cela que vous étiez près de nous la dernière fois.
Et donc j'ai commencé à bosser. Donc, ensuite, après cette librairie, je suis resté au chômage pendant 3 mois, puis j'ai rebossé pendant 2 mois dans un restaurant, plongeur, représentant, marchand de fringues, fripier aux puces, coursier en mobilette. Et là, donc, j'ai connu tout un autre milieu que celui des petits milieux étudiants lycéens que j'avais connus en 68. Quoi.
Et vous avez fait la Manche aussi?
Oui, je faisais aussi...
c'est une bonne école,
ça. Je faisais la Manche dans la rue, oui. Ah oui, ça forme bien, oui.
On va vous écouter, Renaud, parce que je crois qu'il est bon d'aller à la rencontre d'une voix et de savoir un peu ce qui se passe. Alors on va écouter, j'ai choisi. Hein. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai choisi Manu.
Ah, vous avez bien fait, c'est ma préférée aussi.
Et Manu, rentre chez toi, et des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer. Tu gonfles la tôlière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Et déconne pas, Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On était tous maqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi ou alors y'a mal donne. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. On est des loups, on est fait pour vivre en bande, mais surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres, ça fait un bail qu'on a largué nos petites. Toi, t'es toujours en rade avec la tienne et tu flippes. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Et déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Amoureuse Manu, faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine dès qu'elle est dans ton pieu, dis-lui que t'es désolé. T'as dû te gourer trop toi quand tu l'as rencontrée. T'as dû te tromper l'histoire. Elle déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, déconne pas.
Renaud, dans votre chanson, il y a des tas de petites phrases. Par exemple, au début, je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. C'est une manière de dire du loubar. Ben, il ne faudrait pas le regarder comme ça au premier degré. Il faudrait savoir un peu ce qu'il y a sous le blouson de cuir.
Ouais, c'est ça. C'est une façon de dire que c'est des êtres humains et que souvent, le blouson de cuir est une armure pour cacher une infinie détresse, tendresse aussi.
Ils se rendent compte que vous les chantez, que...
Je sais que cette chanson est comme quelques-unes qui sont effectivement assez tendres ou mélancoliques. C'est les chansons qui les touchent les plus quand je les rencontre et qui me parlent de mes chansons. C'est pas toujours les chansons les plus violentes qu'ils aiment, mais souvent celles-ci.
Les plus tendres.
Oui.
Celles qu'ils disent vraiment.
Parce que c'est ce genre de mots, ils peuvent pas les dire. Ouais. Ils ont du mal à exprimer là.
Parce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes et se disent quelqu'un les a dit, nous on n'osera jamais les dire parce qu'on ne nous prendrait pas au sérieux.
Ouais.
Vous habillerez un jour différemment? Vous aurez un costume très chic, bon genre, avec une cravate
Je crois pas, non. Différemment certainement, parce que j'ai envie de changer, d'évoluer, mais pas forcément dans le sens mieux, mais de m'habiller différemment. Mais les costumes, j'ai jamais tellement aimé ça, je veux dire, c'est... préfère les blousons. Mais...
Alors il y a aussi vivre libre, c'est vivre seul. Alors vous vivez très libre aujourd'hui, vous avez une totale liberté. Bon, vous n'êtes pas seul puisqu'il y a une femme et qu'il y a votre petite fille.
Oui, bah oui.
Mais c'est vivre seul quand même.
C'est vivre libre, c'est souvent vivre seul. Je voulais dire par là que je me sens moins libre aujourd'hui avec ma femme et mon enfant que je ne l'étais avant de les connaître.
Voilà.
Mais c'est pas pour ça que je regrette quoi que ce soit. Mais c'est des chaînes en or, mais c'est des chaînes quand même.
Vous avez fait une concession, là. Une petite complaisance à vous-même. Vous êtes heureux, vous êtes en famille. C'est,
oui.
Je crois, la finalité d'un homme ou d'une femme. Mais dans le même temps, tiens, ça ne répond pas tout à fait à mon éthique.
Voilà, c'est ça. Hein? Mon éthique de vagabond, du macadam, enfin de pouvoir partir, faire ce qu'on veut, mourir, même si on veut, du jour au lendemain, comme ça. Et... être en couple, être heureux en couple, être heureux en amour et avoir un enfant, c'est aussi agréable, enfin toute proportion gardée, que partir en vacances quand on est môme. Mais quand on part en vacances, bon, avec une femme et un gosse, on a deux valises à porter qui sont très très lourdes. Mais on part quand même en vacances, au soleil.
On n'est plus du tout égoïste.
Voilà.
Ouais. Et puis ça ne sert à rien, la haine. Donc vous avez compris qu'on pouvait vraiment aller très loin sans véritablement s'occuper de violence.
Ouais, mais là, c'est,
mais on peut le dire.
C'est quasiment de l'utopie.
Ah non, s'il n'y avait pas d'utopie, on ne vivrait pas.
Oui. Ouais, mais je trouve que ça sert à rien. Oui, ça sert à rien.
Lorsqu'on écoute toutes vos chansons, Renaud, on s'aperçoit, bon, je le disais tout à l'heure que vous jouiez à cache-cache, et c'est bien de jouer à cache-cache, mais il y a quand même toutes les lâchetés du monde, toutes les mesquineries du monde, toutes les intolérances du monde, et parfois même vous laissez prendre vous-même à votre jeu. Je vous ai vu à droit de réponse, et pour la première fois, je vous ai vu haussant le ton, et disant presque que... vous ne croyez pas du tout à la tolérance, c'est-à-dire vous étiez totalement à côté de ce que vous pensez. Vous avez eu une phrase comme ça, je ne me la rappelle pas très précisément, mais vous avez dit quelque chose de terrible. Hein,
genre, pas de liberté d'expression pour les ennemis de la liberté d'expression.
Oui, ça a déjà été dit, oui.
Ouais,
oui, c'est ça.
Mais je suis partagé.
Et vous ne pouvez pas le dire, ça.
Non, je ne peux pas, non. Mais là, j'étais dans une ambiance qui a fait que... une ambiance, disons, éthylique. Et puis une envie de me manifester, de pas rester toujours le petit Renaud timide dans son coin qui,
voilà.
Qui parle gentiment. Tiens, il a un blouson de cuir, celui-là, pour un voyou, ben, il se manifeste pas beaucoup. Pour une fois qu'il a l'occasion, dans une émission, entre guillemets, libre, où tout le monde peut s'exprimer, et les gens l'ont fait avec la démesure de chacun.
Oui, mais vous êtes vous-même lorsque vous parlez comme vous le faites aujourd'hui, et vous êtes vous-même même lorsque vous vous taisez. Parce que sur votre visage passent tous les sentiments pour peu qu'une caméra s'installe sur vous. Mais lorsque vous dites « pas de liberté pour les ennemis de la liberté », vous répétez après beaucoup d'autres quelque chose qui ne vous va pas.
Oui, je sais, ça ne me va pas. C'est pas dans
mais mon... je sais pas. Je,
et pourtant, quelque part dans moi, ça existe ce sentiment de refuser une fois pour toutes que le principe que sous prétexte qu'on est de gauche ou anarchiste ou révolutionnaire ou qu'on lutte pour certaines idées qui représentent la liberté, sous ce prétexte-là, on doit être toujours tolérant et toujours... toujours supporter la violence et la méchanceté et la haine de la droite, de l'extrême droite et des nazillons. Et j'ai eu envie de dire qu'il faut qu'on lutte nous aussi avec les mêmes armes, avec la haine et la violence, que sinon on se fera toujours marcher sur la gueule et que voilà, je l'ai certainement mal dit, oui.
Vous pourriez prendre les armes. Ah, je ne dis pas que vous l'ayez mal dit, mais vous le dites tellement mieux dans les chansons.
C'est vrai, mais c'est pour
et
ça
en
que
souvent par
ça
la tendresse.
Que chaque fois qu'on veut m'interviewer ou me faire participer à des débats et tout, je dis mais moi j'ai rien à dire. Le peu de choses que j'ai à dire, je le dis dans les chansons et j'ai l'impression de le dire pas trop mal. Mais s'il s'agit de parler, j'ai d'infinies difficultés et surtout dans ce débat, j'ai eu quelques mal à m'exprimer. C'était pas déjà très très clair dans ma tête ce que je voulais dire.
Ce qui est important, c'est que les choses soient dites, même vraiment, si quelqu'un ne devait pas être d'accord avec ce que vous avez dit, en tout cas, il peut vous en parler.
Oui.
C'est pour cela que ce genre de débat est quand même nécessaire, même si on n'est pas d'accord.
Oui.
En tout cas, ce qu'il y a, c'est pour vous un public. Et j'ai été très frappé, je suis allé vous voir à l'Olympia. Vous aviez succédé, je crois, à Montand.
Oui.
Ouais, une sacrée quand même succession.
Oui, c'était...
Ça ne fait pas peur?
Bah, tout le monde me demandait justement si le fait de succéder à mon temps, ça faisait pas peur, mais non, ça me faisait pas peur.
C'est notre monde.
J'avais pas l'impression que il y avait une rivalité ou une concurrence entre son public et le mien, donc. Mais ça m'aurait ennuyé de, après son succès gigantesque, de faire un bide monumental.
Et je me suis aperçu, Renaud, que ceux qui viennent vous écouter s'habillent comme vous. Ils portent l'uniforme.
Pas tous.
Beaucoup s'habillent comme vous. Et ça pourrait rappeler même, à une certaine période, les scouts, c'est-à-dire ceux qui avaient besoin d'être représentés, d'avoir une idée quelque part, je veux dire, qui avaient besoin d'être écoutés ou qui avaient besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire ces gens-là, et ça se voit et ça s'entend, se reconnaissent en vous. Mm-hmm. C'est là qu'elle est la responsabilité.
Ouais, c'est là qu'est la difficulté, ouais. C'est que effectivement, ils me voient sur scène et ils ont l'impression de s'y voir, quoi, je veux dire.
Vous faites des efforts pour leur ressembler. Alors je me demande si à un certain moment, vous n'avez même pas accentué votre côté loupard.
Et réciproquement.
Hein?
Et réciproquement.
Oui, réciproquement.
S'ils font des efforts pour me ressembler. Mais j'ai accentué... Non, je veux dire, jamais dans mes propos, en tout cas. Je me suis... ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'étiquette. Au début de ma carrière, entre guillemets...
Une carrière, oui.
Oui, 5 ans. C'est presque tous les journalistes ou les gens qui m'interviewaient ou les gens qui écrivaient des papiers sur moi sans me connaître parlaient beaucoup de ce côté loubard et avaient l'air de dire que j'étais un loubard, que je venais de la zone, oui. que la Porte d'Orléans c'était la zone.
On va vite parce qu'après on le croit une fois que c'est écrit.
Voilà, c'est ça.
Il faut vite démonter.
Et que comme quoi j'étais un vrai voyou qui avait réussi son petit chemin dans la chanson. Et après, il y a eu une période de tassement et comme plusieurs fois je me suis insurgé contre cette image et cette légende, maintenant, les médias ont pris l'autre partie de dire pas du tout, c'est pas un voyou, c'est un type très bien, une bonne famille, famille bourgeoise, il a pas connu du tout ce qu'il chante. Ils ont pris l'autre extrême, c'est-à-dire que...
On ne peut jamais être soi-même, il y a toujours quelqu'un pour inventer votre histoire.
Voilà, mais les papiers qui... ou les propos qui définissent vraiment un personnage sont assez rares.
Donc je m'aperçois, Renaud, que ça vous fait mal lorsqu'on dit quelque chose qui n'est pas la vérité. Ça vous fait mal, ça vous agace en tout cas.
Ça m'agace, oui, terriblement.
Bon, une chose est vraie, bon, c'est vous-même qui avez parlé tout à l'heure du côté loubard, mais loubard, il faut l'entendre dans le sens, d'ailleurs, dans le sens de la chanson, c'est Manu. Mmh. Hein. Bon, oui. Alors, loubard compris comme ça, c'est-à-dire marginal, celui qui a besoin de quelqu'un pour lui inventer un autre monde, celui-là, il existe. Mm-hmm. Mais il y a l'autre côté qui me paraît plus important, et c'est pour cette raison que tout à l'heure je parlais de Hallyday, qui a été une époque. Il y a aujourd'hui une époque qui est une époque Renaud, c'est-à-dire un mythe. Or, vous ne serez pas toute votre vie très jeune. C'est donc que vous avez, déjà vous ne l'êtes plus,
déjà,
c'est donc que vous avez le besoin maintenant de faire tout à fait autre chose, parce qu'autrement les chemins sont fermés.
Mm-hmm. Oui, de toute façon j'ai pas voulu être chanteur, je le suis devenu parce que le public a bien voulu que je sois. Et au départ j'ai fait, je faisais des chansons pour amuser mes copains dans les chambres de bonne, dans les bistrots. Je faisais la manche pour gagner un petit peu d'argent de poche aux périodes où j'avais pas de boulot rémunéré. Et je suis monté sur scène un jour par hasard parce que un patron de music hall m'a entendu dans la rue, m'a proposé de monter sur scène. Et de là, un type m'a proposé de faire un disque. Ce que j'ai fait, j'en ai fait un deuxième. Le deuxième a marché. Et puis ensuite, on a dit, voici un chanteur, voici une vedette, voici, c'est son métier, c'est chanteur. Alors j'ai dit, bon d'accord, puisque les gens le veulent, je le saurai. Mais j'envisageais pas une très très longue carrière, je veux dire, là ça fait 5 ans que je fais du disque, je fais ce métier, que j'en vis, et je me vois pas dans 10 ans, 15 ans, faisant l'Olympia pour la énième fois, sortant mon 17e album. Alors avant tout, ce qui me plaît dans ce métier, c'est la création, c'est le fait d'écrire des chansons, c'est plus que de les chanter. J'ai envie de toucher à toute autre forme d'expression.
Même le roman.
Le roman.
Parce que vous avez commencé par la bande dessinée. Lorsqu'on a déjà dans sa tête des bandes dessinées et que ces bandes sont publiées, je veux dire que l'autre écriture, celle du roman, n'est pas loin.
Oui, celle du roman ou du scénario de film.
Scénario de film. Alors là, dans le scénario de film, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, vous écrivez, mais vous pouvez jouer aussi.
Ouais, éventuellement. Vu
que... Parce que je parle de bande dessinée, c'est Gérard Lambert. Ouais. Gérard Lambert, c'est Gérard Lanvin. Gérard Lanvin, lui, existe. Il est pas cher à Nos. C'est un remarquable comédien.
Un de mes meilleurs amis, et c'est Paul Charrier, un jour, que j'ai créé ce personnage de Gérard Lambert. C'est un grand comédien, oui.
Alors, de temps en temps, vous vous dites, pourquoi ne ferais-je pas, moi aussi, le transfert? C'est-à-dire, je passe à la comédie, je joue le texte des autres, et de temps en temps, les miens.
Oui, surtout les miens, je pense, parce que le texte des autres, j'ai eu, depuis que ça marche pas trop mal pour moi, j'ai eu quand même assez souvent l'occasion, enfin j'aurais pu avoir l'occasion, puisqu'on m'a proposé relativement souvent des rôles importants dans des films importants depuis 2-3 ans.
Et pourquoi vous avez refusé?
Parce que c'était pas...
Vous pouvez dire quelques films, non? C'est
Le film que finalement Bachung a fait, le film d'Arabal. Plus récemment, le Jean-Yann, enfin le futur Jean-Yann.
Pourquoi vous dites non?
Je dis non parce que je me sens pas assez fort en tant que comédien pour jouer des rôles qui me ressemblent pas assez. Moi, je suis et j'ai pas envie non plus de jouer des rôles qui me ressemblent trop, qui sont des caricatures de petits loubards de banlieue ou qui sont. J'ai lu beaucoup de scénarios qui étaient écrits qui étaient des sous-valseuses. C'était un remake 10 ans après de ce chef-d'œuvre, enfin de ce film qui a vraiment marqué une époque. L'histoire d'un jeune ou de deux jeunes en banlieue qui rôdent, qui font des petits coups, qui finissent bien ou mal, ou qui finissent par rentrer dans le rang après des histoires un peu sordides, ou qui finissent sur le macadam, une balle dans le ventre ou dans le dos. Et c'est soit des films écrits par des jeunes qui... Donc le scénario n'est pas bien écrit, même si le langage est bien, ou alors c'est écrit par des types d'un certain âge et qui connaissent pas le milieu qu'ils décrivent et qui... Alors le scénario est pas mal, mais l'écriture, le langage des gens est complètement caricatural.
Mais vous ne voulez surtout pas être esclave de ce que l'on croit être vous.
D'abord, et puis j'ai pas envie de profiter de la célébrité de chanteur pour faire n'importe quoi au cinéma, je veux dire.
Alors tout à l'heure, je parlais de ce public, je parlais de cette époque, et chaque génération a ses mythes, a ses personnages, mais c'est vrai que vous occupez un espace tout à fait particulier, vous obéissez à des rites, par exemple le rite du tatouage, qui vient d'un peu loin d'ailleurs, c'est-à-dire que d'autres ont obéi à ces rites. Alors je ne sais pas si c'est une vérité, j'ai vu l'autre, je vous le dis parce que l'autre jour j'ai vu deux jeunes, et tous les deux étaient tatoués. Je leur ai demandé pourquoi, et ils m'ont dit parce que. Je dis pourquoi parce que Renaud.
Ah bon?
Ouais.
Ouais, je connais des petits jeunes aussi qui ont tatoué mon effigie sur le bras aussi. Ça, c'est un peu
dangereux.
C'est angoissant, oui.
Pourquoi le tatouage?
Moi, les autres, je sais pas, mais moi, c'est mon grand-père maternel qui était mineur et qui était prolétaire était tatoué. Et toute ma vie, toute sa vie, ça m'a fait rêver. Chaque fois que je le voyais, ce tatouage sur le bras qui avait délavé avec l'âge, qui était devenu bleu délavé. Et puis le tatouage, pour moi, toute ma vie, ça a été le synonyme de rebelle, de pas comme les autres, de s'identifier, de se démarquer. Et puis c'est esthétiquement, je trouve ça beau. Je veux dire, enfin, quand le tatouage est beau.
Ah, il y a des tatouages super.
Il y a des tatouages magnifiques. Il y a des horreurs qui sont faites artisanalement, je veux dire. Et puis le tatouage, c'est un peu comme le blouson de cuir. C'est une façon de se démarquer, se distinguer, d'avoir l'impression d'appartenir à un monde de différent, un monde de rébellion et de. Puisque à l'origine, le tatouage, c'est essentiellement les tolards, enfin les
princes.
Oui, effectivement.
Beaucoup de rois. Ouais.
Enfin, dans la Légion, les aventuriers, ouais. les marins, les pirates et les prisonniers, les bagnards.
Vous voyez, votre blouson de cuir, demain, vous pourrez l'enlever ou plus tard, tandis que le tatouage, vous aurez un peu de mal.
Oui, mais je l'assumerai certainement toujours, je veux dire. Le principal, c'est de l'assumer.
Vous savez, depuis le commencement des temps, depuis le commencement du monde, on invente des communautés pour sortir les jeunes de la rue, et à certains moments, on pourrait se demander si vous n'inventez pas des chansons pour vous, à votre petite place, aussi sortir peut-être des jeunes de la rue. Pas les enlever de la rue, mais leur faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres mots, d'autres vérités, lorsque ça bagarre trop, lorsque ça cogne trop, peut-être dire violence, amour. Parce que vous, aujourd'hui, vous pouvez le dire.
Oui, j'ai cette chance de pouvoir exprimer, en tout cas, ma violence, je peux l'exprimer par mes chansons, mais ma tendresse, si tendresse il y a aussi par mes chansons, mais je suis beaucoup moins timide en chanson que dans la vie, je veux dire. Et bizarrement, j'ose exprimer des sentiments devant 2000 personnes sur scène et tout, alors que dans la vie, je suis plutôt d'un naturel timide. Mais
c'est sur la scène que vous dites tout.
Oui.
Alors, il y a justement cette chanson, Je suis une bande de jeunes, et je veux dire qu'elle a eu du succès.
Oui, c'était une des enfin, c'est une du deuxième album, mais c'est au deuxième album que ça a vraiment démarré pour moi.
Les copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier de vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes. À moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis. Faut de la discipline dans une bande, je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe, je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute, qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée, par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul, je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule.
Renaud, dans une chanson, l'important c'est de trouver l'idée, de trouver le style. Alors, bon, vous l'avez trouvé, là, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, mais j'ai l'impression quand même que vous faites un peu de racisme vous, en opposant jeunes, vieux. Alors que les jeunes, bon, ils se rencontrent, ils se marient, ils s'habituent, ils s'installent.
Ouais, non.
Enfin... Ils deviennent vieux. Ouais, non, mais, vous en avez l'impression, au contraire, vous souhaitez justement opposer les jeunes aux vieux.
Ah non,
vieux
je ne souhaite pas, non, au contraire. Non, mais je constate simplement qu'il y a un certain racisme, effectivement, entre les jeunes et les vieux, les bourgeois, entre guillemets, les prolos, entre guillemets, les voyous et les fils à papa.
Tout cela vient aussi peut-être du fait que vous avez bien compris, vous parliez de votre père tout à l'heure, bon, qui est lui plutôt l'intellectuel, professeur, écrivain, puis l'autre côté de la famille qui serait populaire, c'est-à-dire les intellectuels d'un côté, le populaire de l'autre, mais tout cela devrait normalement vivre ensemble.
En tout cas, chez moi, ça a bien marché. Le mélange de deux cultures, de deux éducations. Mon père, en plus du fait qu'il soit intellectuel, plutôt bourgeois, les deux vieilles souches protestantes du sud de la France. Ma mère est ch'timi du nord, athée, mineur, prolétaire. Et le mélange des deux a fait moi.
Vous êtes croyant, vous ?
Pas du tout, non.
Vous croyez en quelqu'un ?
Non. Enfin, je sais pas. pas en Dieu en tout cas.
Non, parce que vous dites mon père protestant, ma mère athée.
Ah, je suis pas croyant, mais je suis protestant. Ah. parce que c'est l'impression d'appartenir à, toujours à une minorité. Mais si j'étais en Irlande du Nord, je serais catholique. Je trahirais ma religion. Mais je suis pas baptisé, je veux dire, je suis protestant quand je me dis protestant quand je rencontre des catholiques, mais quand je rencontre des protestants, je dis que je suis un païen.
Le goût de la marginalité.
Oui, je pense.
Ou les grandes épousailles avec des causes.
Non, le goût de se distinguer, de sortir de la masse, ou en tout cas de faire partie du plus petit, de celui qui lutte, parce que le génocide. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, les guerres de religion contre les protestants en France, ça...
C'était quelque chose.
C'était quelque chose, oui. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, par sentimentalisme, je me dis protestant, mais je ne sais même pas la différence entre protestantisme et catholicisme. Mais de toute façon, je suis, radicalement contre l'Église quand elle devient un instrument du pouvoir pour opprimer, je veux dire, ou pour faire baisser le courber le dos aux populations.
Mais Renaud, il y a d'autres églises qui sont celles des partis politiques.
Ouais, c'est vrai, ouais. Mais j'aime entrer dans une église. Non. Je refuse de m'affilier à quelque mouvement que ce soit. Là. Je vous dis, je suis une bande de jeunes à moi tout seul, mais.
Une bande de partis à moi tout seul.
Sentimentalement, il y a bien des partis, enfin un parti que j'aurais eu tendance à soutenir, mais mon éthique.
Renaud, avec les idées que vous avez, cette manière de vous marginaliser aujourd'hui, vous devriez être à droite.
Ah bon? Pourquoi?
Puisque le pouvoir est à gauche.
Ah, mais je ne suis pas ni du côté du pouvoir, ni du côté de ce semblant d'opposition. Non, moi je suis, comme beaucoup de gens, je pense, je suis rebelle, je veux dire, extrémiste.
Mais peut-on être rebelle toute une vie?
Ah oui, je pense, oui.
Vous profitez d'un monde quand même.
Mais je vis dans une société, donc je profite des bienfaits de cette société, mais je crache sur ce qui me déplaît dans cette société. Je veux dire.
Vous avez la liberté.
Puisque si j'aime pas cette société, il y a deux solutions. Soit on l'aime pas et on essaye de l'améliorer, de vivre dedans en la changeant, et en prenant ce qu'il y a de bien et en essayant de changer ce qu'il y a de pas bien. Soit on baisse les bras et on la fuit.
Mais vous savez aussi que il y a d'autres pays où vous ne pourriez pas cracher comme vous le faites.
Je sais aussi, oui. Oh là là. Hein? Oui, mais c'est pas une raison pour estimer que cette société et ce pays sont des paradis sur Terre.
Vous pensez que de temps en temps, Renaud...
Effectivement, si je compare la France à n'importe quelle dictature d'Amérique du Sud ou à n'importe quel pays de l'Est, je suis conscient que nous sommes des privilégiés, je veux dire.
De temps en temps, Renaud, vous pensez à votre fille, à son avenir, à Lolita, à quel âge?
Elle a un an et demi.
Un an et demi. Parce que ça, c'est formidable, non?
Oui. Ah oui, ça, c'est ce qu'il y a de plus formidable, même.
Alors, demain, elle aura également toute une vie à mener.
Oui, non, j'y pense pas trop. Non. Je veux dire, peut-être que si j'avais pensé trop, je l'aurais pas eu. Quand on me dit, on me dit toujours, oui, tu dis que ce monde est pourri, qu'il n'y a pas d'avenir, que tout est gris, que...
Il y a un avenir pour elle.
Je sais pas, mais moi je veux changer ce monde, enfin... avec mes petits moyens, au moins dans... Et j'ai conscience d'avoir... Enfin, je dis souvent ça, mais... D'avoir semé de la graine de rebelle, je veux dire. D'avoir grossi les rangs de ceux qui veulent changer le monde et en faire un monde plus...
Plus juste.
Plus juste, oui. Plus agréable.
Vous avez des références, vous avez de véritables occasions d'admirer les autres. Vous avez admiré qui, par exemple, dans votre milieu? Il y a des chanteurs que vous aimez. D'abord, faut-il vivre d'admiration?
Ah, je crois que ça fait pas de mal, oui, d'admirer les... Enfin, en tout cas, dans mon métier, c'est pas du tout déprimant d'avoir des admirations pour d'autres. Je veux dire, c'est au contraire tout à fait stimulant. Les seules idoles que j'ai eues, c'est à de 12, 13, 14, 15, 16 ans, dans mon adolescence, j'ai été fasciné par trois chanteurs. C'était Hugues Aufray, parce qu'il a, quoi qu'on en dise, il a introduit Bob Dylan en France, et tout un style de chanson. Ouais. Et c'était un des premiers, à part quelques-uns qui grattaient dans les cabarets et qui étaient totalement inconnus. C'était un des premiers chanteurs contestataires qui a porté ce qu'on appelait à l'époque la protest song, et c'est lui qui a fait largement contribué à faire connaître Bob Dylan en France. Et son côté cow-boy me plaisait, et ses chansons à lui et les chansons de Dylan qu'il traduisait. Puis après Antoine aussi, qui en 67 chantait une chanson qui s'appelait La loi de 1920, qui remettait en cause la loi contre l'avortement. Et ça a été des étapes importantes. C'est des gens qui m'ont donné envie de chanter et d'écrire des poèmes avant même de les mettre en musique, avant d'être chanteur. Et le troisième, c'est plus récemment, c'est une grande admiration pour Jean-Patrick Capdevielle, mais ça sera peut-être éphémère, mais en tout cas, ça a été quand son premier disque est sorti, ça a été un coup de foudre, littéralement.
Plutôt Capdevielle que Francis Lalanne.
Ah oui, ah oui, oh là là. Qui, Francis qui? J'aime pas trop, non. Mais et puis sinon, pour parler de mes maîtres, ceux qui m'ont bercé, ceux que j'ai écouté depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à toujours, je pense, c'est Charles Trenet et Georges Brassens.
Ils sont les maîtres de beaucoup. C'est donc...
Mais bizarrement, Charles Trenet, je l'ai découvert il y a 2 ans seulement.
Vous ne le connaissiez pas?
Je ne connaissais pas du tout Charles Trenet. Chez moi, c'était, ça n'existait pas. C'était, ça devait être, je ne sais pas si c'était tabou ou quoi, mais c'était interdit de séjour. Mon père, le seul chanteur français qu'il écoutait depuis 30 ans, ça a toujours été Brassens. Et sinon, il écoutait de la musique classique. Et moi, je suis né dans Brassens, et jusqu'à ce que je quitte le domicile de mes parents, j'ai entendu que ça. Ou alors c'était, enfin, la musique qu'on m'imposait en tout cas. Et la musique, quand j'ai commencé à acheter mes disques, effectivement, j'ai acheté d'autres choses. Mais...
Brassens, Trenet, Aufray, Antoine, Capdevielle, ce sont quand même des hommes de liberté et de grand vent.
Essentiellement.
Vous pourriez partir comme Antoine, c'est-à-dire tout quitter? Non, vous ne pouvez pas partir. Vous avez une petite fille, vous avez une femme, non, pas possible.
Non seulement je peux, mais je vais.
Ah bon?
Mais
en famille.
Mais t'es pas au courant? C'est un piège, cette question?
Non.
Non, je vais partir comme Antoine, oui, effectivement.
Ah non, je vous promets, ça n'est pas un piège.
Non.
Je suis ignorant.
Non, mais je pensais que vous le saviez. Je suis en train de me construire un bateau avec des copains, et on compte avec la femme et l'enfant.
Avec la femme et l'enfant?
Oui. Aller voir d'autres horizons, moins blêmes.
Mais un grand bateau?
Oh, 14 mètres. Un voilier.
Vous serez combien?
On sera 5-6.
Mais pour longtemps? Ou simplement?
Je sais pas du tout, je sais pas.
Une année sabbatique?
Quelques 6 bons mois sabbatiques d'abord, quand il sera prêt, l'été prochain. Et puis ensuite, je sais pas. Aucune idée. Si ça me plaît, si je ne conçois plus ma vie que sur les océans, je la vivrai sur les océans. Si
vous êtes capable de mettre en cause toute votre vie comme ça?
Oui, complètement.
C'est-à-dire de dire, bon, ça y est. J'ai
30 ans, j'ai fait un... Dire à 30 ans ce que Jacques Brel a dit à 40. Je veux dire, j'ai fait mon métier, je l'ai fait pas trop mal, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, j'ai l'impression que j'ai plus rien à dire, ou je le dirai plus mal, je le dirai pas aussi bien que par le passé.
Je ne veux pas rabâcher.
Je veux pas rabâcher, je veux pas faire du Renault. Si c'est le cas et que je suis fasciné par la vie sur les océans...
À ce moment-là, peut-être, vous pourriez réussir à faire rimer idéal et marginal. C'est-à-dire, vous seriez à côté, vous ne feriez pas tout à fait ce que font les autres, et dans le même temps, vous iriez jusqu'au bout de ce que vous aviez toujours
voilà,
pensé.
Voilà, je ne sais pas si c'est...
Ça, c'est de l'utopie, hein.
C'est un peu l'utopie, mais je veux dire, ça ressemble quand même de... Ouais. Si, même si ce n'est pas la liberté, ça ressemble beaucoup, la vie sur un bateau, sur les océans.
Oui, mais vous aimez aussi les gens. Vous aimez aller regarder, aller voir.
Mais j'irai les voir justement, et j'irai voir d'autres gens, parce que je connais rien. Moi, je connais la France, la Belgique et la Suisse pour mes déplacements en tournée. Mais sinon, j'ai jamais mis le pied ailleurs. Et je sais qu'il y a d'autres mondes à visiter, et d'autres gens à voir, et des gens peut-être plus violents, des gens peut-être plus gentils, des gens peut-être en tout cas différents. Et...
Je m'aperçois que vous avez une boulimie de gourmandise. D'ailleurs, tout commence pour vous.
Oui, enfin, c'est pas fini en tout cas.
Et dans le même temps, vous vous dites, parce que tout pourrait finir.
Oui, je me dis ça aussi, oui.
Alors c'est la peur, ouais, en fait, qui vous fait partir.
Non, j'ai l'impression d'avoir eu une chance inouïe dans ce métier, d'avoir... je sais pas, je...
Vous ne pensez pas parfois, Renaud, qu'il est plus difficile de rester que de partir? Vous savez, souvent, par exemple, certains ont été obligés de quitter leur pays, on en connaît, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Il vaut mieux partir que de continuer à vivre dans les camps de concentration. Mais dans le même temps, il y en a d'autres qui restent. Je pense, par exemple, à un grand écrivain comme Sabato. Il reste en Argentine, et il part en Argentine. Et c'est parfois plus glorieux.
Plus dur, oui.
Enfin, vous êtes allé vite, hein? Mais c'est maintenant très lentement que vous voulez vous faire connaître. C'est-à-dire que vous êtes allé plus vite que la plupart. Vous me parliez de Brassens, on pourrait parler de Brel. Mm-hmm. Les difficultés qu'ils ont eues ont été énormes. Tandis que vous avez été reçu.
Oui, j'ai jamais ramé, comme on dit. Chaque fois que j'ai chanté quelque part, les gens ont aimé et m'ont propulsé vers un stade supérieur du métier. Je suis passé de la rue, enfin des chambres de bonne et des bistrots jusqu'à la rue, de la rue au cabaret, du cabaret au café-théâtre, du café-théâtre au music-hall.
Ça n'a fait que... Ça n'a fait que monter.
C'est pour ça que j'ai...
Vous seriez capable de revenir en arrière? C'est-à-dire d'aller faire la mort?
J'ai pas envie de tomber, en tout cas.
Vous n'avez pas envie de tomber?
En tout cas, pas de trop haut. C'est pour ça que j'ai envie de m'asseoir et de regarder en bas, et regarder derrière, regarder devant, mais...
C'est-à-dire, vous voulez bien connaître les années de révolte et d'incertitude à condition d'être bien installé. Hein? Parce qu'avant, vous ne pouviez que monter. Maintenant, d'une certaine manière, vous ne pouvez plus que descendre. Si, on peut encore monter,
Peut-être encore monter, mais je ne sais pas jusqu'où. Une fois qu'on a fait le théâtre de la ville pendant en 79, Bobino en 80, l'Olympia en 81, au niveau de la carrière, qu'est-ce qu'il y a de plus important et plus mieux à faire? Je veux dire, là j'ai fait 3 semaines l'Olympia, c'était complet, les gens ont bien aimé, et moi j'ai bien aimé. L'année prochaine, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour épater mon public, ou pour l'impressionner, ou pour le séduire? Je peux faire effectivement 3 mois à l'Olympia, mais je veux dire, moi une carrière c'est les échelons qu'on monte, et tôt ou tard, ça, soit on redescend, soit on s'arrête. Je trouve que de toute façon ce qu'a fait Jacques Brel, c'était formidable. Je regrette même presque son dernier disque, parce que...
Faut savoir s'arrêter.
Oui, il avait bien su.
Et puis on n'est jamais ce que voient les autres. C'est-à-dire vous seriez plutôt vous un papa gâteau, un mari exemplaire.
Oui.
Et puis on se fait des tas d'idées, mais c'est parce qu'on peut avoir cette vie et voir l'autre... Et qui témoigne de ce qu'on veut faire, de l'idéal que l'on a, non? Mais on ne vous permet pas.
Enfin, moi, mon idéal, c'était pas de...
Loubar jusqu'à la fin de votre vie.
Voilà, c'est ça. Mais mon idéal, c'était pas de ni d'être une vedette de la chanson, ni d'être riche, célèbre. Mon idéal, c'était effectivement d'avoir une femme, un enfant que j'aimais, et de vivre heureux avec eux. Enfin, une femme et des enfants. Mais la célébrité, c'était pas du tout mon idéal. Moi, je voulais simplement réussir, m'épanouir dans le métier que j'aimais. Comme je savais pas bien le métier que j'aimais, mais je savais que c'était un métier artistique. J'ai jamais demandé à la vie autant de succès et de bonheur.
Vous me disiez tout à l'heure que votre père écoutait Brassens, mais en même temps du classique. Alors, vous avez écouté Vivaldi, Mozart, vous pouvez laisser aller à ses musiques ou pas?
Mozart et Mahler, absolument, oui. Oui, moi, je suis complètement ouvert à... chez moi, j'écoute un jour, le matin, du Musette, Edith Piaf ou Fréhel, Bert Silva, et du Musette pur, l'accordéon. Et ensuite, je passe un disque de Capdevielle, suivi d'un Vivaldi, puis d'un Bobby Lapointe, un Charles Trenet. De toute façon, beaucoup de chanteurs français, quasiment pas de musique anglo-saxonne.
J'ai lu ce qu'écrivait Daniel Lehmann, et c'était très joli. Plus bruant que truand. C'est un peu ça, donc, qui pourrait vous définir?
Un peu, oui. Ça, c'est...
Pourtant, vous n'êtes pas toujours très content de ce que l'on écrit sur vous.
Bah, là, ça va.
Hein?
Plus bruyant que truand, oui.
Enfin, ni gauche, ni droite, tout droit.
Voilà.
C'est ça?
C'est ça.
Merci, Renaud. France Inter, 17h59. Mon invité était aujourd'hui Renaud. Renaud qui parle rarement. Tout ce qu'il a sur le cœur, il le chante. Et il le chante bien. Peut-être saurez-vous maintenant le reconnaître un peu mieux. Demain, nous aurons un autre rendez-vous. Demain, je recevrai Anne Sinclair, qui est passée d'une chaîne à l'autre, qui maintenant porte les choses d'une manière un peu différente. Et tout le monde dit, parce qu'on écrit surtout, elle a remplacé Daniel Gilbert. Mais elle fait un métier à sa mesure. Demain, Anne Sinclair. À demain, bonsoir.